L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct sur 48FM pour une nouvelle émission de L'Oz Actuali. On se retrouve avec l'équipe type hein, de L'Oz Actuali. Caroline est revenue de ses égarements sur les pistes de ski avec une souris.
Avec Monsieur Souris, j'ai dansé avec Monsieur Souris.
Voilà. Donc on se retrouve, bonjour Adeline, bonjour Eric.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bonjour tout le monde.
Et quand même, il faut dire que Guillaume, il a démarré cette émission en me disant « chute ». Alors déjà, on est très nombreux dans ce studio, anormalement nombreux, je ne sais pas si on est aux normes. Et il a dit « chute » à des compteurs. Moi, je trouve ça complètement délirant pour démarrer cette émission.
Voilà, une émission aujourd'hui qui va parler de comptes, une émission avec un format un petit peu spécial, puisque nous avons quatre invités, trois compteurs, donc Myriam Pélican, Jérôme Aubineau et Basile Gaon.
Qui n'est pas compteur, qui est musicien, ah, mais voilà. C'est pas grave.
Voilà, bon, après, moi, moi c'est ce que j'ai sur mes fiches, hein, mais on va les corriger. Hein, voilà. Et puis, on a Rémi.
Oui, mais il n'a pas amené sa guitare, on ne peut pas savoir.
Voilà, c'est ça. Et donc, Rémi de la Fédération des foyers ruraux. Et évidemment, on va parler de ce qui fait l'actualité de ce mois de février avec le festival Contes et Rencontres. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera une chronique d'Éric. Ce sera une chronique c'est littéraire.
Ça. Voilà, littéraire. Un livre qui date un tout petit peu, non, qui a 5-6 ans.
Mais voilà, qui est grandement d'actualité, même si je viens de te chambrer.
Voilà, on parlera toujours, on aura toujours notre chronique hashtag avec Adeline. Et il sera question aujourd'hui d'un réseau social de photos.
Oui, et d'un deuxième aussi autour des animaux. Mais
Oula. Voilà, et puis évidemment la revue de presse pour terminer. Et donc tout de suite, on commence avec cette rencontre avec le conte, avec le festival Contes et Rencontres 2017. Allez, c'est parti, la virgule est enfin partie, on va pouvoir commencer, donc c'est ce qui commence bientôt. Alors, vous avez, certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à compter ces derniers jours, d'autres vont commencer. Alors, quel premier ressenti du public lausérien?
On aime bien la Lozère. J'avais eu la chance de venir il y a une dizaine d'années, je crois, et c'est vraiment un rendez-vous qu'on attend. Moi, j'aime bien cette rencontre-là, parce que d'ailleurs, c'est un festival qui porte bien son nom, parce qu'il y a effectivement la partie spectacle, mais aussi raconter des histoires n'a de sens que si on rencontre les gens. Et je trouve que tout est fait de façon à ce que la rencontre puisse se faire avec les organisateurs, aussi avec le public. Donc, le public lausérien, oui, on en redemande. Oui, oui.
Alors, peut-être, Rémi, en quelques mots, la programmation de cette année.
La philosophie.
Oui, l'esprit de. Voilà.
Ben, là, cette année, donc, on a choisi des conteurs qui étaient un petit peu atypiques, un petit peu originaux dans ce qu'ils proposaient, un petit peu foufou, comme Jérôme, comme Basile, Myriam. Voilà, c'était l'idée de la programmation cette année, d'avoir vraiment des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire dans la forme et dans le fond aussi. Et puis garder de toute façon toujours cette philosophie, en effet, de la rencontre. Et il n'y a pas que la qualité culturelle, on va dire, et la qualité des conteurs. Il y a aussi cette capacité-là humaine qui est vraiment prise en compte, avec cette volonté d'avoir des conteurs qui sont ouverts d'esprit, qui sont prêts à rencontrer du monde, à discuter, à se prendre des retours parfois qui ne sont pas toujours évidents à entendre après les spectacles. Donc merci à eux vraiment d'être dans cette logique-là, dans cette dynamique-là qu'on souhaite conserver sur Contes et Rencontres.
40 représentations, c'est quand même aussi un des événements qui couvre l'intégralité du territoire du département de la Lozère.
Bah là, par exemple, donc dimanche, Jérôme Obineau et Basile Gaon étaient au lobby, donc pas très très loin de Saint-Amand. C'est un territoire où Contes et Rencontres avait lieu pour la première fois. Ça s'est plutôt bien passé. Il y avait plus de 80 personnes dans la salle.
Ça a été plein à craquer.
C'était très très bien, voilà, exactement. Oui, vraiment, l'idée, c'est de couvrir tout le territoire et de faire en sorte que tous les foyers ruraux puissent être impliqués d'une façon ou d'une autre sur le festival. Voilà, il y a des foyers ruraux qui, du coup, s'associent pour pouvoir accueillir le festival parce qu'ils sont en manque de bénévoles ou de choses comme ça. Donc, ils sont obligés de s'associer, mais ils ont vraiment envie de participer à ce festival. Et donc, ça couvre de Fournelles jusqu'à Chastanier, après dans le sud, jusqu'à Saint-Étienne-Vallée-Française. Enfin, voilà, on est vraiment sur l'ensemble du département.
Avec un autre petit nouveau qui est Masdeval, hein, cette année. Non, c'est pas ça ? Mas-Saint-Chély ?
C'était la question.
C'était la question.
Monsieur Rémy, est-ce que vous avez révisé avant de venir ?
À quelle date ?
Qui a fait le programme, disons.
On répond les yeux fermés.
Bon, allez, on va passer à la question. Mais faut quand même rappeler une ouverture à guichet fermé ce samedi à Ispagnac avec la compagnie Bricotto qui avait été en résidence dans les Cévennes.
Oui, donc Damien Bricotto qui sortait d'une résidence au Pont de Montvert. C'est vrai que Damien Bricotto a l'habitude de tourner aussi dans des grands théâtres avec beaucoup de lumière, d'accessoires, beaucoup de techniques derrière. Donc voilà, la résidence au Pont de Montvert était une résidence technique pour pouvoir l'adapter à Contes et Rencontres et faire en sorte que ce spectacle puisse tourner plus facilement. On est sur une forme plutôt théâtralisée, mais on reste dans l'univers du conte puisque c'est une adaptation des contes de Pierre Gripari. Et c'est vrai que ça a très très bien marché. Les enfants qui étaient présents étaient à fond. Les adultes qui étaient présents ont ouvert leur part d'enfance et ça s'est très bien passé. Ouais.
C'est à Laval du Tarn.
Ah, c'était Laval du Tarn, d'accord.
C'est quasiment voisin. C'est Laval qui m'a trompé.
Alors, peut-être on va avant, on reparlera évidemment du festival un peu à la fin de cette première demi-heure. Mais peut-être pour vous qui êtes conteur, comment on devient conteur ? Question bête, hein.
Moi, je dis honneur aux femmes.
Je pense qu'il n'y a absolument pas de règles, de choses prédéfinies où on peut dire à ceux qui ont envie de se lancer, il y a vraiment, tu dois passer par là ou par là parce que le conteur n'a pas d'école. Enfin, il y a plusieurs façons de se former avec des grands maîtres, etc. Avec Jérôme, on fait partie de la même génération, la même fournée. D'ailleurs, avec Catherine Gaillard aussi. C'est marrant parce que Rémi je sais pas si tu l'as fait par sans faire exprès ou quoi, mais on est un peu la troisième fournée. Le conte ayant commencé il y a 30 ans, à peu près, étant devenu un métier il y a une trentaine d'années. Donc il y a eu une première fournée, une deuxième, et nous on est la troisième. Donc on a eu des maîtres, entre guillemets, hein, des mentors. Jérôme, dans son bled de Vendée, il y a eu Jolin. Ben oui, que tout le monde connaît, je pense, ici en Lozère.
Oui,
voilà, moi j'ai commencé avec Indenok, après Didier Kowarski, mais on a tous été au début, il faut accepter d'être, comme on disait dans le jargon à l'époque, le petit poulain de... Parce que c'est un petit peu... Ah oui, donc on est mis à l'épreuve de... Après, il faut se détacher du maître et se lancer avec notre... Trouver son identité de conteur. C'est quelque chose, d'ailleurs, dont j'ai parlé avec les stagiaires que j'ai eus le week-end dernier. C'est « Mais qui je suis en tant que conteur ?» On sait qui on est. Mais après, quel est mon univers et quelle est mon identité de conteur ? C'est beaucoup une question de ceux qui apprennent, en tout cas. Et c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire, ça touche à quelque chose de beaucoup plus intime. C'est comme, ça me fait penser aux ados avec leurs jeux vidéo. S'ils veulent inventer un jeu vidéo, qu'est-ce qu'ils vont construire comme univers à l'intérieur du jeu vidéo ? C'est un peu pareil pour nous, en fait.
Et c'est vrai que contrairement à d'autres disciplines artistiques, par lesquelles il existe des écoles, le conte n'a pas d'école. Et tu parlais, Myriam, de maître. Et c'est vrai que c'est un peu quelque chose de particulier dans le conte, où il y a ce qu'on appelle le compagnonnage des conteurs plus expérimentés qui prennent sous leur aile un conteur ou une conteuse. Et donc ça donne aussi un rapport à la discipline qui est aussi un rapport de transmission. Le conte, il se transmet aussi de bouche à oreille. Et puis, aussi sur des logiques de territoire. C'est vrai que moi, venant du Marais Poitevin, c'est une région dans laquelle il y a encore une forte tradition orale, où les conteurs sont assez nombreux. Et du coup, je trouve que ça participe à la transmission, à l'animation aussi d'un territoire que d'accompagner des conteurs. Voilà.
Ce qui vous inspire du coup aujourd'hui, c'est quoi dans vos écritures et dans vos contes ?
Alors, en tout cas, moi, ce qui m'inspire, il peut y avoir une base de contes traditionnels et qu'on réadapte. Alors, je dis ça avec Basile, parce que notre particularité, depuis que moi je fais ce métier, j'ai toujours collaboré avec des musiciens, où l'idée étant de chercher comment paroles et musique vont s'associer. Donc, moi, j'aime beaucoup faire du collectage, aller chercher cette matière orale sur des sujets qui peuvent être différents. On a travaillé sur la traversée de la nuit, les collectages de rêves, de cauchemars, de stratégies pour ne pas aller dormir auprès d'enfants. Et puis, sur le spectacle « C'est quand qu'on arrive », autour des relations père-fils, collectage et auto-collectage. Moi, je suis fils d'un papa qui était militant à la Confédération paysanne. Et du coup, forcément, dans le questionnement des relations père-fils, on y met aussi un peu une part de soi. Ça, c'est sûr.
Et alors, quand même, on va le dire, c'est quand on arrive hein, ce soir à Bagnoles-les-Bains, pour ceux qui voudraient entendre Jérôme et Basile.
Et mercredi à Saint-Frézal devant Talon, c'est un petit peu plus loin.
Oui, ça sera plus
simple. La soupe ça et sera... du dessert.
Ça sera plus simple, effectivement.
Parce qu'on mange bien l'Auxerre. Hein.
Et alors, justement, comment on rentre dans votre univers ? Comment, pour ceux qui viendront vous voir à Bagnoles ou à Saint-Frézal, quel dispositif, quel...
On peut presque venir en famille, hein, puisque c'est le spectacle des
On peut complètement venir en famille. On peut complètement venir en famille. Et comment on rentre dedans ? On ouvre les oreilles, on se laisse aller, et puis on se laisse emmener ou pas. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de recette. Hein. Chacun vient comme il est, et puis...
Est-ce qu'il y a une des forces du conte, c'est aussi cette relation directe et immédiate qu'on a avec le public. Et donc, du coup, chaque représentation est un peu différente, unique, même si le texte, on le connaît, même si les histoires, on les connaît. N'empêche que on est vraiment très attentif à l'ambiance qui est en salle, l'humeur dans laquelle on est. Et forcément, ça va colorer les histoires. Pour ces camps qu'on arrive, on rentre par le début de l'histoire. Ça commence par une naissance et on est dans le ventre de la maman. Donc c'est vraiment, on est toute création de notre héros Thomas. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une particularité des conteurs que d'avoir cette relation directe, immédiate avec l'auditoire. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que le festival Contes et Rencontres, qui est soucieux aussi de l'accueil du public, de cette proximité avec le public, qui est vraiment importante. Et du coup, pour raconter des histoires, on a besoin de ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Myriam, mais c'est vrai que...
Bah oui. Mais je pense que déjà, on ne peut pas commencer une séance de conte, un spectacle, comme au cinéma, avec... On arrive un petit peu, enfin, doucement. On prend doucement les gens par la main. C'est une invitation à venir chez nous. Même si on est chez eux, en fait, c'est ça qui est étrange. Du coup, on s'approprie le lieu quand on s'installe et on invite les gens à venir. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, dont je fais attention parce que j'ai une drôle de tête. Les gens, ils voient pas trop des filles comme moi. Donc déjà, je sais que si j'arrive brutalement, ça va pas le faire. Donc, les premières histoires, les premiers instants, et je trouve que la naissance et le ventre de la mère, c'est tout à fait juste aussi dans cette délicatesse, la façon d'aborder un étranger. On va pas lui dire « D'où tu viens, toi ?» On va lui dire « Bonjour. »
Papier, s'il vous plaît.
Voilà, papier, tout ça. On a une autre façon de... Moi, j'ai vu, hier, j'étais à la Fage, et il y avait le paysan qui donnait... qui s'occupait de ses vaches. Je sais que c'était compliqué de l'aborder comme ça, parce qu'on est... Il y a personne dans le village, il est tout seul avec des vaches. On s'est vu. Et en même temps, moi, j'avais envie de rentrer dans l'étable et de voir les vaches. Bon, mais ça a pris un moment, ça a pris bien 20 minutes avant que je lui dise bonjour, voilà, je peux rentrer, etc. Et bien, c'est pareil pour un spectacle.
Mais est-ce que vous travaillez aussi un peu la mise en scène, un peu comme au théâtre, ou non, ça va plus être comme un concert.
Il y a forcément une fraternité avec le théâtre, parce qu'on arrive aussi sur un espace scénique, donc on ne peut pas faire l'économie du travail de l'espace, du travail de la voix. Et puis, je crois qu'il est aussi souhaitable d'avoir un regard extérieur, d'avoir quelqu'un. Quand on écrit des histoires, quand on les raconte, on a un peu le nez dans le guidon, et c'est toujours précieux d'avoir une oreille, un œil extérieur qui vienne aussi nous renvoyer un peu les questions de rythme, le fond aussi de ce qu'on raconte. Donc, ouais, moi je crois qu'il y a cette fraternité avec le théâtre, à la différence qu'on ne tient pas un rôle, on est conteur. Quand je parlais de direction immédiate, enfin de relation directe immédiate avec le public, je crois que c'est aussi cette force-là, à la différence du comédien. On ne tient pas un rôle, on raconte l'histoire. Après, je pense qu'il y a fraternité avec le théâtre. Donc,
d'autant qu'on voit de plus en plus de comédiens qui se transforment et qui souhaitent devenir conteurs. Et de plus en plus, c'est un mouvement qui est réel actuellement.
Mais alors, il y a des choses intéressantes que j'ai entendues en stage avec des comédiennes qui sont venues à mon stage, qui sont fascinées par le conteur. Parce que, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que le comédien, souvent, est dans un personnage. Mmh. Et quand il monte une pièce, en tout cas, c'est ce qui se passe ici en Lozère avec les comédiens, voilà, ils travaillent un personnage. Et ils sont fascinés par le fait qu'on est à nu. Et qu'on parle à partir de soi, et qu'on raconte. Et c'est ça qui les fascine. Et c'est vrai que, de la même manière, moi, je peux être fascinée par... je ne saurais pas comment, quand je vois Isabelle Huppert ou les actrices, je ne sais pas si je pourrais rentrer complètement dans... C'est-à-dire, ce qui est agréable avec le conteur, c'est qu'on est soi-même, et on parle de tas de gens... Et on les emprunte, je dirais, quand c'est on ça, parle ça. D'eux. Mais on les incarne pas complètement. On peut, par exemple, faire parler une grand-mère avec la voix qu'on a. Il y a juste une posture et les gens voient une grand-mère. Mais on n'est pas dans l'incarnation totale du personnage. Et ça, les dialogues comédien-conteur sont vachement intéressants.
C'est aussi pour ça qu'il y a autant de conteurs que de styles. Et qu'il y a, j'ai envie de dire, pas de règles. L'important, c'est vraiment, est-ce que la magie opère? Est-ce qu'on fait le voyage? Et c'est vrai qu'il y a des conteurs qui vont être plus théâtrales que d'autres, utiliser plus la scénographie, le travail de comédien, et d'autres un peu moins. Mais là encore, il n'y a pas de règles. Je crois que l'essentiel est que la magie opère et qu'on fasse le voyage.
Je voudrais souligner là, parce que ça fait un moment que je suis le festival, la qualité proposée par les foyers ruraux. Parce que même dans les tout petits villages, vous avez toujours fait l'effort que ce ne soit pas le conte au coin du feu. Quoi. Il y a toujours quand même un espace scénique, un éclairage, un rideau noir derrière le conteur. Enfin, il y a cet effort depuis très longtemps pour en avoir
vu pas mal. Et ça demande une organisation.
Voilà, je sais que c'est un truc énorme. Et il faut le souligner parce que c'est super important. Quoi. On vient dans une minuscule salle au fin fond de la Lozère. Mais on a quelque chose d'hyper pro et c'est super important.
Et je pense que à l'échelle de la Lozère, enfin moi en tout cas du plus loin que je me souvienne en tant qu'enfant, j'ai des souvenirs de conteurs du festival Contes et Rencontres.
Elle est toute jeune, parce que le festival a 26 ans et Adeline elle en a 26 et demi, donc forcément.
Non, mais du coup je pense que en l'occurrence je suis pas la seule à avoir vraiment grandi avec ce moment clé et du coup j'ai plein de souvenirs de conteurs ou de conteuses et je crois que c'est vraiment quelque chose de, en effet comme tu dis, dans les petits villages, je me souviens on allait dans les petits villages, dans des petites salles et il y avait toujours quelque chose.
Moi je trouve que la date est très bien choisie, c'est un des rares festivals en février et au cœur de l'hiver, c'est là où le conte a sa place vraiment parce que les gens sont vraiment plus disponible qu'en été, je trouve. C'est le traditionnellement, en tout cas,
ça c'est quelque chose de voulu et de revendiqué. Enfin voilà, d'être vraiment hors période scolaire parce que c'est un festival qui s'adresse en priorité aux personnes qui vivent tout au long de l'année sur le territoire, et aux bénévoles qui animent les villages tout au long de l'année. Et ensuite, c'est vrai que là, à travers ce festival, ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre à tous les festivaliers, il y en a quand même pas mal qui y suivent et qui font plusieurs spectacles dans la quinzaine, de voir des nouveaux endroits. Voilà, par exemple, dimanche, au lobby, il faisait très très beau. J'imagine qu'il y a des gens qui sont venus se promener un petit peu autour des lobbies et qui ensuite sont venus au spectacle et se rebaladaient ensuite. Il y avait grosso modo 50% des personnes qui étaient du village, du coin, on va dire, et les 50% qui venaient de l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un suivi réel et des déplacements, on va dire, de population pour ce festival. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant, oui.
Bien, c'est effectivement, ça nous donne envie. Alors, vous nous parliez aussi de stages de compte. Ça s'adressait à qui? Alors, c'était le week-end dernier, c'est ça?
Oui, c'était samedi dimanche.
C'était voilà, à craquer comme l'ouverture. Voilà.
Mais peut-être pour l'année prochaine, pour ceux qui voudraient se lancer, ça consiste à quoi un stage de compte? C'est ouvert à tout le monde
Là, je pense que oui, dans le festival, c'est une formule découverte où on voit des spectacles en même temps qu'on travaille le compte. On est dans un bain, en fait. Et puis, c'est bien parce qu'il y a des gens là qui venaient de Bourgogne hein, ou d'Ardèche. Ouais.
Ça doit être interdit d'ailleurs, ça. La thématique était passionnante cette année, non?
Oui, c'était le compteur et ses interdits. Voilà, c'était. Mais je pense que chaque, comme disait Jérôme, chaque compteur a sa marque singulière et donc ses formations correspondent à ce qu'il peut apporter dans sa singularité, parce qu'autrement tous les stages se ressemblent, on rabâche les mêmes choses, mais moi je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais amener qui était pas vu dans d'autres stages. Ben, je travaille sur les interdits, mais c'est les interdits. On a vu que Perrault a censuré le conte au 18e, a censuré des passages, a édulcoré, comme on dit, a enlevé des passages qui étaient trop trash, trop. Et aujourd'hui il y a un relent de ça. Un engouement pour revenir à la chair et au sang du conte, quoi. Et on ne sait pas trop comment le faire et on ne sait pas trop si on est capable de l'assumer parce que, voilà. Et donc, le thème, c'était le conteur et ses interdits. Je pense que, Jérôme, quand tu fais de la formation, tu...
Moi, j'ai un parcours, j'ai fait de la danse et du théâtre. Donc, souvent, l'axe et l'angle de recherche est basé autour du corps, le corps du conteur. Comment le corps peut être un conducteur du sensible, de l'émotion. Donc, toute la recherche et ce que j'aime explorer avec les conteurs, c'est vraiment cet univers-là.
Et on a aussi donc un musicien. Et donc, comment on rapproche la musique et le conte?
Alors, peu de musiciens connaissent l'univers du conte, parce que tout simplement, ce n'est pas notre culture de départ. Mais moi, j'ai eu la chance, dans la ville où j'habitais adolescent, qui est un festival de contes, et j'y suis allé, voilà. Et la discipline m'a plu. Et puis il se trouve que Jérôme, je l'ai rencontré très jeune, dès l'école maternelle, je crois. Voilà. Et puis on a fait nos bouts de chemin artistiques, chacun de notre côté. Donc moi, j'ai fait des études en conservatoire, tout ça. Et puis lors d'une rencontre sur un plateau partagé à Fontenay-le-Comte, la ville dont je vous parlais, on arrivait tous les deux pour présenter quelque chose de différent. Et voilà, on a eu l'idée de travailler ensemble. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti, un peu plus de 10 ans, maintenant 11 ans, je crois. Voilà.
Vous faites que des créations?
Alors, les deux, il y a eu reprise d'un tour d'histoire qu'il a déjà travaillé avec d'autres musiciens, d'autres instrumentations. Voilà, donc où là j'ai recréé la musique. Et puis des créations, oui. Là, plus vraiment fait à deux. Moi m'occupant plus de la musique et lui de l'histoire, bien sûr. Mais...
Et là, vous êtes plutôt sur quel instrument pour le spectacle?
Moi je suis guitariste, hein, essentiellement. D'accord. Donc là j'ai plusieurs guitares, j'ai une guitare classique et puis une guitare électrique. Voilà, puis je jongle avec ces instruments-là. Il y a des parties chantées également.
Avec plein de pédales à ses pieds.
Ouais.
Et c'est vrai que sur ce spectacle-là, le mariage se fait quand même très très bien entre conte et musique. Des fois, ça peut être un peu superposé sur certains spectacles, mais là, dans ce spectacle-là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un dialogue qu'il y a entre les deux.
Bah, l'accompagnement du conte, je parle d'accompagnement, parce que ouais, je le vois vraiment comme ça. Pour un musicien, la place n'est pas forcément évidente à trouver. Parce qu'il faut être là, sans être trop là. Voilà, il faut qu'on arrive à porter l'histoire, à parfois la raconter en musique, voilà, créer parfois uniquement des ambiances. Voilà, bon, nous, on chante, enfin, il y a des chansons, il y a des ritournelles, des choses comme ça. Mais c'est très différent de l'accompagnement d'un chanteur, par exemple, ou alors, enfin, moi, je fais beaucoup de musique uniquement instrumentale. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir.
Alors là, on rappelle que ce spectacle, on peut le retrouver donc ce soir à 20h30 au Théâtre de Bagnoles-les-Bains. spectacle accueilli donc avec les foyers ruraux d'Alinc, de Bagnoles-les-Bains et de Saint-Julien-du-Tournel. Et on peut le retrouver aussi mercredi à Saint-Frézal-de-Ventalon, au lieu-dit Le Temple. Et là, le spectacle est co-accueilli avec le foyer rural Regain. Et il y aura effectivement une soupe et un dessert après le spectacle qu'il faut réserver. Il faut évidemment se procurer la petite brochure pour trouver toutes les infos qui vont bien.
Oui, pensez à réserver pour les soupes et les desserts. C'est quand même plus pratique pour l'organisation.
Plus de soupe, autrement de partager.
C'est con de partager la soupe.
Myriam, dites-nous un petit peu ce que vous proposez dans le spectacle qu'on pourra retrouver mercredi au Bruel d'Esclanède, jeudi à Bédouès et vendredi à Chastagnier.
Alors, oui, Vagabonde. Vagabonde, c'est un retour aux sources. En fait, ça fait des années, donc j'ai monté ma compagnie lyonnaise, Croix-Roussienne pour ceux qui connaissent Lyon. Et
La plus belle ville du monde.
Allez, ça faisait longtemps
qu'on n'avait pas parlé de Lyon. Hein, Caro ?
Magnifique, une ville plus ancienne que Paris, hein, quand même.
Ah oui.
Qui existe avant l'arrivée des Romains. Lugdunum, la ville du corbeau.
Le dieu soleil.
C'était un flash de
publicité. Je vais aller au Bruel, moi, demain.
Donc voilà, donc en fait je travaille énormément avec des musiciens aussi parce que moi je viens du rock and roll et j'ai pas fait de théâtre tout ça, donc j'arrive de la musique plutôt à la parole toujours, mais pas conteuse, et quand j'ai fait du conte, j'ai rallié les deux et du coup j'ai aimé ces foyers ruraux, disons de façon nationale. Parce qu'il y a la Lozère, il y a la Champagne-Ardenne, il y a le Nord, il y a la Sarthe. Mais c'est hallucinant, il y a Bretagne. Et c'est vraiment, je crois que tous les conteurs, c'est quelque chose qu'on partage. C'est qu'on adore venir dans les foyers ruraux. C'est vraiment un truc magique, ces communes, ces petits villages. Parce qu'il y a cette idée de rencontre qu'on n'a pas forcément quand on est au théâtre ou quand on est en ville ou quand on est dans des festivals plus... Voilà. Ça, c'est précieux parce que ça nourrit notre travail, en fait. Si on fait une création, en général, on fait les premières tournées. En fait, voilà, je commence par vous. Traditionnellement, c'est ça, parce que c'est une manière de les mettre à l'épreuve. Le public a quelque chose à dire sur les spectacles.
Et il ne se prive pas de le dire.
Et du coup, ça fait réfléchir, ça fait travailler. Le paysage ambiant est vachement nourricier aussi, parce qu'il y a les gens, puis il y a le vent, il y a toutes sortes de choses dingues, les oiseaux. Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, j'habite la ville, donc c'est un peu... voilà, les gens ont une disponibilité...
C'est un voyage en terre inconnue, un petit peu...
Et donc voilà, j'ai voulu revenir aux sources avec un spectacle en solo, Vagabonde, vraiment, c'est-à-dire comme le colporteur. Avant, le conteur, c'était un colporteur, en fait, qui allait de village en village et qui... on est un peu comme ça toujours aujourd'hui, on est toujours un peu nomade à se balader, aller loin en francophonie. En
troubadour des temps modernes.
Oh, c'est ça. Donc, en fait, revenir à une forme comme ça, où la vagabonde, c'est moi, et donc je rapporte le fruit de mes vagabondages, qui sont des contes traditionnels et des collectages.
Voilà. Très bien, donc on retrouve ce spectacle mercredi 22, donc voilà, c'est cette semaine, à 20h30. Au Bruel, donc sur la commune d'Esclanède, à la salle des fêtes, donc accueilli par le foyer rural d'Esclanède. Jeudi à 20h30 à la salle des fêtes de Bédouès, avec les foyers ruraux de Cocurès, Florac et la salle Prunet. Et vendredi à Chastagnier à la salle des fêtes, avec 19h30 la soupe offerte et à 20h30 le spectacle. Et c'est un spectacle accueilli, co-accueilli avec la fédération, évidemment, par le foyer rural de Chastagnier. Alors, peut-être avant de se quitter, on va vous... Et de revenir avant vraiment de se quitter sur les détails pratiques pour avoir toutes les infos, peut-être vous pourriez nous mettre un peu encore plus dans l'ambiance. Vous nous aviez dit que peut-être on pourrait avoir une petite chanson, une petite histoire...
Oui, alors voilà, j'ai pensé à un truc complètement bête, c'est que comme je m'intéresse aux interdits, en fait, je m'aperçois que dans le répertoire traditionnel, conter, mais aussi chanter, parce que je m'intéresse aux chansons traditionnelles, Il y a tout un tas de récits dans le chant traditionnel où on parle de choses assez terribles comme les infanticides, par exemple. Oui. Et qu'aujourd'hui, les gens seraient outrés d'entendre ce que les vieux chantaient. Parce qu'on pense aux fest-noz, aux chansons à danser, mais il y a tout un pan du répertoire traditionnel qui raconte pas mal d'horreurs, quoi.
Comme... Moi, j'adore Myriam parce que c'est vraiment le soulage du conte. Elle va chercher tout ce qui est le plus noir possible et essayer d'en dégager de la lumière. Et c'est magnifique.
Et donc, en cherchant, j'ai rassemblé tout un tas de... Vous savez, dans les années 70, les hippies, ils faisaient des collectages sur des bandes, les magnétophones à bandes, là. Donc, à Lyon, il y a tout un tas de placards avec plein de bandes des années 70. Donc, je vais écouter ça, je vais écouter ces mamies, ces papis qui chantent. Et donc, il y a une toute petite chanson qui me fait rire. Et parce qu'elle est incroyable, voilà, parce que c'est les crimes, les meurtres passionnels, les infanticides, mais aussi la folie. Et il y a une petite chanson qui fait comme ça. Je trouve ça un peu dingue. Je suis un peu folle, je ris pour un rien. J'ai l'esprit frivole, je vous en préviens. La mélancolie, ce n'est pas mon défaut. Pourvu que je ris, c'est tout ce qu'il me faut.
Alors voilà, donc on rappelle, hein, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, pour retrouver Myriam Pélican dans le spectacle Vagabonde. Alors c'est marqué dès 10 ans sur le...
Tu chantes pas dans le spectacle aussi.
Si.
Eh ben voilà. Et alors peut-être une histoire avec
voilà, le studio de 48 FM.
C'est ça.
L'histoire, vous allez pas être déçus. L'histoire d'un big farmer au volant de son big tracteur, un gros Massey Ferguson. Ce paysan-là s'en va donner à boire à ses vaches, puis il voit sur le bord du chemin un homme qui a l'air d'attendre quelque chose. Le paysan s'arrête, il baisse sa vitre électrique, puis il dit « Ah, pour du stop, c'est osé de faire du stop ici ». Puis l'homme dit « Non, je fais pas de stop, j'ai juste soif. Bah écoute, je m'en vais donner à boire aux vaches, va derrière le tracteur, va derrière la tonne, ouvre le robinet, puis prends, bois tout ce que tu veux. » Et l'homme va boire. Et cet homme-là, c'était le bon Dieu qui était redescendu sur la terre et très touché par le geste du paysan. Il a dit « Écoute, j'aimerais te remercier, mais voilà, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Il y a juste une petite condition, j'en donnerai toujours le double à ton voisin. Alors je t'écoute, fais tes propositions. » Le paysan a réfléchi, puis il s'est dit qu'il demanderait bien de la pluie. Mais vu la saison à laquelle on arrive, non, c'est trop tard pour la pluie. Pour compenser, il demanderait bien des primes. Et vous savez ça, à 48 FM, quand les primes tombent sur terre, ça fait pac, 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 pac. Puis il a vu les primes du voisin, le double, il a dit oh, non, c'est pas ce que je veux. Bon, ben, deuxième vœu, ben, je voudrais agrandir ma propriété. Pas de problème, lui a dit le bon Dieu. Puis tout d'un coup, le paysan a vu ses terres qui ont commencé à grossir, les buissons qui s'arrachaient. Et les terres du voisin qui grossissaient encore plus. Ah oh non, c'est pas ce que je veux. Bon ben faudrait se décider. Attends, le double pour mon voisin? Alors je sais. Je voudrais que tu me crèves un œil. J'avais dit que ça plomberait l'ambiance à 48 FM. Qu'une solution, indignez-vous.
Voilà.
Bon, du salon de l'agriculture.
Chers amis paysans, bonjour.
Voilà, donc vous pouvez retrouver Jérôme avec Basile dans le spectacle C'est quand qu'on arrive ce soir à Bagnoles-les-Bains à 20h30 au théâtre, hein, ce mardi soir, et mercredi à Saint-Frézal de Ventalon au Temple. Peut-être pour terminer, Rémi, parce qu'on doit vous libérer pour la bonne organisation des choses.
Est-ce qu'on peut dire quand même, Rémi le dira peut-être, mais qu'il n'y aura pas que du conte, il y a aussi de la réflexion, puisqu'il y a une soirée jeudi sur la place de l'artiste en milieu rural, parce que c'est quand même aussi la philosophie des foyers ruraux que de ne pas faire du conte idiot, mais de nous faire réfléchir. Une soirée qui précédera une journée professionnelle, hein, où, avec des programmateurs, c'est quand même un moment aussi important de ce festival depuis plusieurs années.
Et c'est vrai que là, sur ce temps-là, donc cette conférence débat avec Jean-Louis Le Valégan, qui est un conteur breton, qui parle de son histoire, de son parcours, personnel. Ça va nous permettre à tous, tous les compteurs de la journée pro seront là, mais aussi les programmateurs de différentes structures culturelles qui seront présents, de réfléchir à la place de l'artiste en milieu rural, donc tout ce qui concerne aussi les questions de l'identité et du rôle d'un artiste quand il vient dans un monde rural qui est considéré comme spécifique, il paraît. Et aussi d'aborder toutes ces questions-là. Nous, en tant que programmateurs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose et pourquoi est-ce qu'on le propose ? Voilà, dans quelles conditions aussi on accueille les artistes et qu'est-ce que ça signifie pour nous de faire ce travail-là. Donc l'idée, c'était de faire venir un conteur qui partageait un petit peu ses problématiques avec nous, étant donné qu'il est breton, il a grandi dans le monde rural. Et de ne pas avoir un compteur qui soit trop proche aussi pour que tout ça nous paraisse un petit peu loin et nous permette de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit au quotidien ici.
On encourage tous les politiques de notre département à venir écouter ça.
Donc c'est jeudi 23 février, jeudi 23 février, à l'Espace des Anges à Mende, à 17h15 pour l'accueil du public, 17h45 la rencontre débat, et ensuite on peut aller au spectacle notamment de Myriam.
Voilà, de Myriam Pélican et de Catherine Gaillard qui sont programmés le soir même, donc on s'organisera, on aura une soupe partagée évidemment comme d'habitude, même dans les temps de réflexion on n'oublie pas qu'il faut manger aussi, et ensuite on peut aller sur les spectacles, on s'organisera pour les covoiturages, il n'y a pas de souci. Ouais.
Voilà, bah très bien. Alors, où peut-on trouver toutes les infos qui vont bien pour savoir où ça a lieu, les détails pratiques, les numéros de téléphone pour réserver sa soupe, etc.
Alors, tout ça, vous avez les programmes, les affichages, etc., qui sont dans les offices de tourisme, un petit peu partout en Lozère. Les foyers ruraux ont fait un travail de diffusion qui est assez conséquent, là. Donc, vous pouvez trouver le support papier un petit peu partout, des affiches un petit peu partout. Si jamais vous n'en voyez pas, vous pouvez donc aller sur le site internet de la fédération, foyer-ruraux.com, pardon.
Avec un S à foyer, évidemment.
Évidemment, puisqu'il y en a plusieurs. Et notre numéro de téléphone, donc c'est 04 66 49 23 93, si jamais il y a le moindre besoin. Tous les spectacles sont sans réservation préalable, y compris la clôture, sauf évidemment pour tout ce qui est soupe. Donc j'insiste là-dessus, c'est là où c'est indiqué, s'il vous plaît, essayez de réserver un minimum. Mais sinon, il n'y a pas besoin de réservation, c'est dans la limite des places disponibles par contre. Donc arrivez à l'heure.
Et les tarifs d'entrée pour les spectacles ?
Ça aussi, entre 6 et 10 euros. Ça dépend des spectacles, ça dépend de la réalité du foyer rural qui accueille, ça dépend de pas mal de choses. Voilà, donc c'est entre 6 et 10 euros avec des tarifs préférentiels, évidemment, pour les adhérents des foyers ruraux, etc.
Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou pas ?
Oui, on est aussi sur Facebook.
Et parce que c'est...
Suivez-nous sur Facebook.
C'est la casquette d'Adeline.
On
n'a
pas Twitter, par contre, pas de hashtag, ça, on ne sait pas encore faire, mais par contre, sur Facebook, là, il y a toutes les actus qu'on relaie vraiment au jour le jour, donc allez-y. Ouais. Okay.
Mais merci beaucoup d'être venu dans notre émission. On va faire une pause musicale pour pouvoir vous permettre de vous libérer. Et bon festival à tous.
Merci. Voilà.
Regarde s'effondrer les eaux plus vénéneuses. Le ciel est en avance, la vie est en retard. De vers macabre danse au creux de sa mémoire. Dans ses yeux où la mer se suicide en salit, brûle des arcs-en-ciel de sexe et d'extasie. Et son regard s'habille à l'aube en robe noire, un ULM passe dans ses yeux sans la voir. ce cartel aux mains de matador. Petite putain, pucelle, crache l'amour et s'endort dans des sommeils criards où volent encore des fioles par milliards sur des étoiles mortes. Petite fille gâtée, c'est l'hiver d'une larme qui déteint sur l'été comme une marée noire, et ses pupilles crèvent comme des mouettes en plein vol. Y a pas de bénévole aux plages du désespoir. Y a pas de bénévole aux plages du désespoir.
Voilà, on se retrouve. Ben maintenant, on a chassé nos invités.
Hein, on aurait bien continué, pourtant.
Oui, on aurait bien continué avec eux. Mais voilà, il y avait des impératifs logistiques, évidemment, sur un festival. Ça se comprend bien. Et donc, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission. On va retrouver plutôt la partie chronique, alors avec seulement deux chroniques aujourd'hui. Et on commence, Eric.
Est-ce qu'on peut donner une petite info quand même?
Ah, mais tu peux donner toutes les infos que tu veux.
Parce qu'on a promis à nos auditeurs qu'on faisait du suivi dans cette émission. Donc, vous annoncez que cet après-midi, certainement entre 14h et 15h, Rich Wilson devrait arriver au Sable d'Olonne. C'est le 13e concurrent du Vendée Globe, Eric.
C'est ça.
Voilà, oui. 107 jours en mer. Alors, bien évidemment, presque un mois après Armel Lecléache, mais voilà, il y en a encore qui arrivent.
Et c'est pareil.
Le 14e, un Espagnol est pas loin.
C'est encore une histoire particulière. Là, le nouveau marin qui arrive, qui a fait partager en fait tout son voyage avec avec des jeunes écoliers,
Voilà.
Et qui aide.
Un navigateur américain qui avait dit que si Donald Trump était élu, il resterait le plus longtemps possible en mer.
On en parlera tout à l'heure de Donald Trump. justement, on commence. Enfin, non pas justement. Enfin, si peut-être. On commence.
Oui, ça fait partie.
Si, justement.
On commence avec ta chronique, une chronique littéraire engagée, on va dire.
C'est ça. Que c'est sur un livre que j'ai lu il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Donc c'est un livre dont je repense de temps en temps, et là, récemment, plus souvent que d'habitude. Donc c'est vrai que je l'ai relu. Donc ce livre, c'est Indignez-vous. Donc c'est, quand je vois comment évolue la société maintenant, que ce soit les politiques, les médias, la culture, l'environnement, et je pense un peu à ce que je vais laisser à mon fils, et là, donc, ça me donne vraiment envie de réagir. Donc c'est vrai que j'ai relu ce livre. Au commencement du livre, donc l'idée c'était de faire un entretien avec cet homme, donc Stéphane Hessel, qui est figure française de la résistance, c'était recueillir son expérience de vie. Et en fait, c'est devenu un texte sur l'engagement, sur la non-violence, sur les acquis sociaux, sur la déclaration des droits de l'homme. Et surtout, ça a permis de faire un lien entre la résistance historique et les résistances d'aujourd'hui. Donc, à la sortie du livre, il faut savoir que le Premier ministre de l'époque, il avait déclaré « J'ai vu qu'il y avait un débat qui s'était noué autour de l'indignation, mais l'indignation pour l'indignation, ce n'est pas un mode de pensée. » Donc c'est vrai que de ce côté-là, les politiques, ils ne s'indignent pas pour rien. C'est bien connu. Non, je ne vais pas parler du mari de Pénélope, encore une fois, mais je vais continuer à parler de ce livre.
Ah mais oui, c'est celui qui dit c'est que ça. Quand les journalistes tiennent leur rôle de contre-pouvoir, ça pose un problème pour la démocratie.
C'est ça.
Je tenais à le dire dans cette émission, voilà. Ça, je suis furax de cette phrase.
Ça fait partie aussi du livre de Stéphane Hessel, c'est-à-dire que pour lui, il pense aussi qu'il faut défendre justement cette idée d'une presse indépendante, donc que ce soit bien vis-à-vis de l'État que des puissances financières ou des influences étrangères. Donc on a vu ces derniers mois justement tout ce qu'il fallait pas en gros. C'est-à-dire que sont, voilà, les grosses puissances financières sont des richissimes qui détiennent tous les plus gros journaux, tous les plus gros médias. On en a parlé ici de ce qui s'était passé à iTélé un petit peu, de ce genre de choses, de ce qui s'est passé là aux États-Unis où on parle de l'influence russe, l'influence russe aurait pu avoir. Donc c'est vrai que déjà, il y a 5-6 ans, il nous avait annoncé tout ça. Donc c'est vrai que voilà, c'est une société maintenant où on crie un peu après les sans-papiers, après les expulsions, on a des soupçons à l'égard des réfugiés. Mais à l'époque, déjà, il tentait de nous rappeler, et ce qui est arrivé après, donc l'isolement et la pauvreté, que ce soit aussi bien dans le monde que dans nos campagnes ou dans nos banlieues, c'était ça qui amenait, en fait, ça nourrit la haine et la révolte. Et que justement, la société, elle est de plus en plus dominée par ceux qui ont l'argent et qui le possèdent. On a l'impression maintenant que c'est eux qui dirigent. On n'a plus l'impression que c'est l'État qui dirige, mais que c'est ceux qui possèdent l'argent. Donc lui, voilà, il voulait dénoncer ça. Et en même temps, c'est que ça lui rappelait des peurs. C'est que c'est ces mêmes peurs-là qui avaient fait monter le fascisme. C'est là où on a le lien entre la résistance historique et les résistances d'aujourd'hui. Donc il nous rappelle, voilà, sur quoi il a basé ses résistances. C'est la liberté de confession, la liberté d'expression, donc comme on l'a vu par rapport aux journalistes, la liberté de vivre à l'abri de la peur et la liberté de vivre à l'abri du besoin. Donc ça, c'est la base de la charte des Nations Unies. Et bien sûr, sans oublier l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, après, il nous rappelle ça, tout ça, l'éducation, l'importance que chaque enfant ait accès à l'éducation. Donc chaque enfant éduqué ne sera pas forcément un terroriste en puissance. Et il est grand temps, voilà, justement, que le souci d'éthique, de justice, d'équilibre durable, que ce soit ça qui prévaut et pas tout le système qu'on est en train de voir. Et c'est pareil, il prône la non-violence, c'est-à-dire qu'il a montré que dans le siècle passé, maintenant c'est vrai que c'était le siècle passé, ceux qui ont réussi à faire changer les mentalités, les grandes figures qui ont réussi à faire changer les mentalités, prenaient la non-violence, c'est-à-dire qu'ils se basent, ben, c'est Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, tous ces gens-là ont vraiment fait évoluer la société dans laquelle ils évoluaient, mais ils n'ont jamais utilisé la violence. Donc c'est pour ça qu'ils condamnent aussi tout ce qui est violence, c'est-à-dire que il s'est beaucoup investi dans le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que là, il essayait plutôt de défendre la Palestine, mais il n'acceptait pas que... Il comprenait pas qu'ils utilisent autant la violence, la Palestine, c'est-à-dire qu'il restait persuadé quand même que la Palestine ne pourrait jamais s'en sortir avec la violence. La violence, elle apporte pas de l'espoir. Et c'est justement que la non-violence qui apporte l'espoir. Donc voilà, après, il citait souvent Sartre. Alors voilà, Sartre qui disait « Vous êtes responsable en tant qu'individu », donc ça nous rappelle que chacun, on n'a pas à attendre le pouvoir... de l'État ou le pouvoir d'un dieu, il faut nous à chacun de réagir, donc on peut chacun réagir, résister à sa façon, ça peut être de communiquer, ça peut être d'utiliser les mouvements sociaux, il y a plusieurs mouvements qui sont nés après le livre, donc je sais qu'il y a le collectif Roosevelt qui est né après le livre, il y a certains mouvements comme les Indignés ou Occupy Wall Street ou les 99% qui ont utilisé ce bouquin, justement, comme l'une de leurs inspirations. Et donc, je vous invite à lire, par les derniers mots du livre, « Créer, c'est résister, et résister, c'est créer ». Voilà, en plus, on l'a vu avec nos conteurs qui sont là, qui étaient là juste avant. C'est aussi un petit moyen de résister, d'aller dans les campagnes, de compter, de raconter des histoires. Voilà.
Merci, Eric. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Oui, moi je viens de poster là, ce début de semaine sur mon Facebook, on le partagera sur celui de l'émission, mais une interview récente de Madame Kolinka, une ancienne résistante, ça résonne avec ce que tu viens de nous dire, qui a été reçue l'année dernière à Mende, une séance super passionnante et sensible qui avait eu lieu à l'IUP de Mende, qui était plein à craquer, et qui... pareil, nous met en alerte par rapport à ce qui est en train de se passer aux prochaines échéances électorales, en résonance avec ce qu'on a déjà vécu au XXe siècle. Une interview vraiment à retrouver, un personnage délicieux.
Bien, mais écoutez, on va faire une petite virgule et on va changer de sujet. Ça va être un peu plus...
Beaucoup plus léger.
On fait des grands écarts.
Oui, mais après, c'est surtout un message d'espoir qu'il voulait faire passer.
Hein. Oui, c'était tout à fait.
Allez, une virgule, et on continue avec la chronique hashtag. Adeline, c'est à toi.
Oui, bonjour à tous, rebonjour. Alors, du coup, dans cette rubrique hashtag, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un autre réseau social que mon petit favori, qui est Twitter, pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, une application qui s'appelle Snapchat. Alors déjà, est-ce que vous connaissez autour de la table Snapchat ?
Oui. Pas depuis très très longtemps, je ne suis pas utilisateur depuis très longtemps, mais maintenant j'en suis un grand utilisateur.
D'accord.
Moi je ne l'utilise pas, mais à la maison il y en a une qui l'utilise assez souvent avec les enfants adorent ça.
Oui voilà, moi c'est pareil.
Donc en effet, alors c'est pas un réseau social qui est récent, puisque du coup il a été lancé en 2011, donc à l'échelle de la vie de ces outils, c'est finalement pas si récent que ça. Mais aujourd'hui, en effet, c'est une des applications les plus, enfin en tout cas les préférées des générations Y et Z, donc nos petits bambins, on va dire, les adolescents, jusqu'à et Guillaume aussi, voilà.
Notre petit bambin.
quoi, je suis bien dans la génération Y, non ?
Je pense que t'es dans la génération Y, comme moi, toi.
Oui, voilà.
Alors voilà, du coup, je voulais juste en quelques mots vous dire ce qu'il en était de cette application, puisque c'est un petit peu particulier. C'est un réseau social de partage de photos et de vidéos. Mais la spécificité, c'est que l'existence des médias ont une durée de visualisation limitée. C'est-à-dire que chaque expéditeur choisit en fait la durée d'affichage de son média, donc une photo ou une vidéo. Alors, juste quelques mots sur l'histoire de Snapchat. Donc, je vous le disais, c'est un projet qui est né en 2011. Et à l'origine, et ça nous rappellera quelques autres grandes histoires de réseaux sociaux de ces dernières dizaines d'années, c'est l'origine d'un projet d'études de deux étudiantes de l'université de Stanford. Evan Spiegel, âgé de 22 ans à l'époque, et Bobby Murphy, âgé de 24 ans, accompagné d'un troisième partenaire qui s'appelle Régis Brown. Et donc du coup, à la base, un projet d'études de développer une application à l'université dans le cadre de leur cursus. Et puis l'application a connu un développement vraiment phénoménal avec en 2014, je crois, une proposition de rachat de Facebook à plus de 3 millions de dollars qu'ils ont refusé. et puis du coup, voilà, un développement de l'application jusqu'à cette année 2016 où du coup j'avais envie de vous donner quelques chiffres parce que ça m'a presque donné le tournis. Donc aujourd'hui, en juin 2016, donc on va dire il y a quelques mois, l'application comptait déjà plus de 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Alors c'est deux fois moins que Twitter, certes, mais encore, on le disait, c'est sur aussi une catégorie de population plus jeune. Donc c'est déjà énorme et c'est en croissance à peu près constante tous les mois. Donc en France, Snapchat, c'est plus de 8 millions d'utilisateurs actifs. Donc voilà, c'est énorme, avec du coup un fort pourcentage de jeunes âgés de moins de 25 ans, puisque 71% des utilisateurs de Snapchat ont moins de 25 ans. En termes de chiffres aussi, c'est colossal. Aujourd'hui, Snapchat serait valorisé à plus de 20 milliards de dollars, voilà, rien que pour la valorisation du coup de l'application, c'est colossal. Voilà pour cette petite découverte. Moi personnellement, je l'utilise pas. Je sais qu'il y a eu aussi plein d'évolutions de l'application. Alors peut-être Guillaume, tu peux nous en dire. Il y a aussi plein de choses avec des histoires où on peut enregistrer ses mémoires, où du coup les images et les médias, les photos, les vidéos restent un peu plus longtemps du coup accessibles.
Mais c'est vrai que le principe, c'est bon, vraiment d'envoyer un message qui va être lu qu'une fois ou potentiellement une deuxième fois. Mais uniquement deux fois maximum. Et il y a la possibilité maintenant d'afficher quelque chose qui va être visible, on va dire, 24 heures. Et un peu comme sur Instagram aussi, on retrouve
ce qu'ils appellent les stories.
Les stories, ouais, voilà. La même, la même logique. Après, ce qui est très drôle et ce qu'on voit apparaître aussi sur, sur d'autres supports au-delà de Snapchat, c'est les habillages. Et alors, maintenant, c'est dans la messagerie de Facebook, dans le Messenger de Facebook. C'est des habillages avec des
des incrustations de texte,
puis même des déformations un peu de l'image pour vous faire une tête de lapin, d'ours, de koala, vous rajoutez une casquette, des lunettes,
on vous mettra Guillaume sur le site avec sa tête de koala.
Donc vous avez et ça change régulièrement. Alors c'est marrant parce qu'on a juste, même si on l'utilise pas forcément pour ça, mais on a toujours l'envie de temps en temps de se dire tiens, je vais aller voir les nouvelles conneries qu'ils ont sorties et d'aller voir un peu et ça marche plutôt bien, y compris en vidéo, où on peut afficher ça sur la vidéo, ce qui est un peu plus compliqué. Ça marche pas forcément sur toutes les applis, mais si vous avez un bon débit, etc., ça peut être pas mal. Voilà.
Et en préparant la chronique, j'ai aussi lu qu'ils allaient aller vers l'intégration avec de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. C'est-à-dire, en effet, de plus en plus de possibilités d'utiliser l'application aussi en interface pour des expérimentations de réalité augmentée. Donc à suivre, puisque du coup, je pense que c'est une application qui n'a pas encore fini son développement, bon, qui sera peut-être l'objet de rachats imminents par des grands groupes de toute façon ou des GAFA. Mais voilà, en tout cas, à suivre pour ceux qui sont un peu curieux de découvrir les applications tendances du moment.
Mais on en avait parlé, c'est quand même une application qui est très bizarrement faite et qui est en tous les cas dans un montage pas très, très forcément très logique. Et tu nous en avais parlé, je pense que c'est vraiment quelque chose qui cible le public voulu et l'ergonomie n'est pas forcément faite pour des vieux.
C'est ça, absolument. Je pense que, par exemple, moi je l'ai vu du coup quand même un petit peu, mais je ne l'ai pas téléchargé sur mon téléphone et je ne l'ai pas trouvé du tout attractive. Je n'ai pas du tout eu envie de me prendre au jeu. Mais en effet, je pense que c'est vraiment très travaillé en fonction d'une cible et... ça serait intéressant de réfléchir et d'analyser justement un petit peu du côté socio-psychologique comment sont construites ces applications en direction des jeunes d'aujourd'hui.
Bien, mais on fait une courte pause musicale et on se retrouve pour la revue de presse tout de suite après. Ah non, peut-être d'abord les hashtags de la semaine.
Ah oui, pardon, les hashtags de la semaine, j'ai complètement oublié de vous en parler.
On allait oublier les hashtags de la semaine.
On allait oublier les hashtags. Le hashtag tendance de ce début de semaine, une idée ?
Pénélope ? Non, c'est fini.
Ça fait plus partie des top tweets. là, il y a eu une vague de tweets autour de Jean-Marc Ayrault ce début de semaine.
Donc il y a toujours qui renonçait à briguer un autre mandat.
C'est ça, oui. Il y a eu pas mal de relais en fait, en tout cas de tweets autour de cette actualité où du coup le ministre des Affaires étrangères renoncerait du coup à tout mandat, à tout prochain mandat ou toute en tout cas de se présenter à quelques élections prochaines que ce soit. Voilà. Alors j'avoue que je suis assez curieuse de ce top tweet ce début de semaine. C'est peut-être que dans l'actualité il n'y avait pas grand chose d'autre.
Mais... Le week-end dernier il y a eu beaucoup de réactions, me semble-t-il, autour des déclarations d'Emmanuel Macron, alors à la fois sur
la décolonisation
et à la fois aussi sur sa réaction sur la manif pour tous et qui a été selon Emmanuel Macron humilié, donc avec des jeux, des twittosphères concernés, visés, qui évidemment réagissaient, contre-réagissaient, s'invectivaient. Enfin, le débat était largement relancé.
Complètement, tout à fait. En Lozère, hormis la neige, puisque je le dis à chaque fois, mais c'est vrai en ce moment, quelques tweets autour de Innomur qu'on avait reçu ici dans l'émission, et à nouveau aussi une actu sur l'atelier Tufféry. Ce début de semaine avec le prix de l'innovation.
Voilà, et relayé d'ailleurs sur le Facebook de la région aujourd'hui ou hier, je ne sais plus.
Hier, ouais.
Et avec, au niveau international, beaucoup de Trump et d'anti-Trump,
ça continue. Oui, évidemment. Ouais. Mais on va en parler.
Mais là, c'est constant.
Le Monde a fait le bilan de ses quatre premières semaines. Il a fait 375 tweets en un mois, ce qui est 10 fois plus qu'Obama en un an.
pour dire que des choses intéressantes.
En plus, c'est ça, ouais.
Allez, petite pause et on se retrouve tout de suite après.
C'est impressionnant.
É isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD, alô Cidade de Deus. Se liga, presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de chora mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já
c'est la revue de presse et on commence avec Eric. Eric, tu vas nous parler d'un pays qui est devenu le royaume des abeilles.
C'est ça, on déplore depuis quelques années quand même dans nos campagnes la mortalité des abeilles et des ruches. Et donc je suis tombé sur un article et donc figurez-vous qu'à Cuba, ils n'ont aucun problème avec les abeilles. Et donc ça vient que, ce qui m'a amusé aussi, c'était de savoir pourquoi. C'est-à-dire que, vu qu'ils sont victimes, entre guillemets, de l'embargo américain depuis X et X années, ils n'ont pas le droit d'accéder à tous les pesticides Monsanto. Et donc, ils font beaucoup de cultures bio. Et donc, par conséquence, les abeilles, là-bas, on la vit belle. Donc voilà, ça m'a amusé de voir que finalement, on pouvait réussir à cultiver sans engrais chimiques, sans pesticides, et qu'en plus on pouvait réussir à faire vivre les abeilles. Donc en lisant un peu plus, j'ai vu qu'en France, on avait quand même une toute petite partie où ils avaient réduit fortement les pesticides, et où ils avaient pu voir aussi qu'il y ait le retour des abeilles. Alors c'est sur l'île de Ouessant, donc à chaque fois on va croire finalement que ce sont les îles qui vont nous montrer comment faire pour l'avenir.
Très bien, très bien. on retrouvera évidemment la référence de l'article.
Ouais, je remettrai la référence ouais.
Sur le Facebook. Moi, je voulais vous parler de Donald Trump. Hein. Bon, évidemment, il y a tellement à dire. Il y a un article du Huffington Post qui lui aussi fait un peu ce bilan des 4 ans, enfin des 4 ans, des 4 semaines qui
ça nous paraît déjà 4 ans, déjà c'est long.
Voilà, vous avez eu le lapsus. Moi, je voulais surtout revenir, finalement, ce qui m'a marqué ces derniers, dans les derniers événements, c'est quand même cette histoire de l'attentat en Suède, qui est quand même absolument hallucinant, surtout quand on sait que derrière, c'est finalement un documentaire sur quelque chose qui s'est passé en 2010 en Suède, donc diffusé la veille au soir sur Fox News, qui lui a fait dire ça. Donc on est vraiment dans quelque chose qui, enfin voilà, je pense que voilà, on s'apprête pas à avoir des choses très très sympathiques dans les mois qui viennent. Et puis on peut, enfin voilà, et en écho à ça, voilà, c'était bizarre de retrouver dans l'actualité aussi. Hier, les enchères pour le téléphone rouge d'Hitler, qui était aussi dans l'actu. Je trouve que tout ça, ensemble, fait bien penser à la chronique d'Eric. Et donc, ça mérite qu'on s'indigne un petit peu. On poursuit, Adeline, avec...
Sans lien aucun avec Trump, mais je vais vous parler de requins. Voilà. On peut imaginer des parallèles. Je cherchais du coup en effet un petit article pour la chronique aujourd'hui et j'ai trouvé cette petite curiosité, j'ai trouvé ça très sympa et je me suis retrouvée à naviguer, c'est le cas de le dire, de site en site et du coup j'ai découvert une petite application alors qui s'appelle OSearch, donc pour océan et search, les deux mots, et une application qui permet de suivre en temps réel les déplacements marins de plusieurs requins blancs. Alors c'est très sympa parce qu'il y a aussi un site internet et où du coup ils ont tous un petit nom parce que du coup ils sont pucés et on peut suivre leurs déplacements. Alors ça a évidemment cette application et ce site internet une portée scientifique puisque du coup c'est un outil qui a été développé par un laboratoire de recherche. Mais ça a aussi un côté prévention, puisque l'idée, c'est de pouvoir voir aussi proche de nos côtes où se situent les plus grands requins, du coup, en déplacement. Donc voilà, je vous invite à aller vous balader. Ils ont aussi... Alors, ce qui est très, très rigolo, c'est qu'ils ont quand même poussé un petit peu, pour le côté ludique, l'outil, puisque les scientifiques ont voulu personnaliser l'expérience en attribuant à chaque requin un nom et une photo de profil sur Twitter. Donc, certains de ces requins ont un compte Twitter. Et donc, vous pouvez suivre la vie de Buzz, par exemple, de Joseph ou de Caroline. Oui, oui, il y a un requin blanc, un grand requin blanc appelé Caroline, dont on peut suivre les déplacements.
C'est une intelligence artificielle qui tweet ou ce sont des...
Non, je pense que ce sont les vrais scientifiques qui tweetent parce que du coup, je me suis baladée sur les comptes et voilà, il y a quand même des infos assez qualitatives sur...
Pas d'intelligence artificielle chez Caroline,
c'est
de la vraie.
Donc voilà, du coup, vous pouvez vous balader et suivre sur le réseau social ces prédateurs. Et puis du coup, il y a aussi des relais d'infos et d'actualités et aussi d'informations scientifiques sur ces animaux-là. En tout cas, ça m'a amusé 10 minutes. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour.
Merci Adeline. Et on termine avec du sport, sport people un peu. Hein,
ouais, mais voilà, alors... Il y a un peu quand même un sportif qui a défrayé la chronique dans le bon sens, hein, défrayé ces derniers jours, même si son dernier tour de piste dimanche n'a pas été celui qu'on aurait pu espérer. Je veux parler de Martin Fourcade, hein, le biathlète français, qui espérait rivaliser avec le Norvégien Bjørndalen ce week-end dans la Mastartart. Voilà, bon.
À rivaliser avec lui, il a rivalisé. Hein, parce que Bjørndalen est arrivé beaucoup plus loin, c'est au niveau du palmarès, voilà, c'est-à-dire le rattraper au niveau
voilà,
du palmarès.
Ouais. Bon, c'est pas le cas, tant pis. En tout cas, il y avait une interview juste avant la course dans le Parisien cette semaine, donc une interview de sa compagne. Alors, oui, c'est un peu people. Sa compagne, Hélène Ouzabiaga, qui s'occupe d'enfants déficients professionnellement. Et qui raconte un petit peu sa vie avec et sans Martin, puisqu'il part quand même une grande partie de l'année. Ils vivent tous les deux avec leur petite fille Manon à Villard-de-Lans. Et elle raconte un petit peu cette vie avec et sans, où on apprend que c'est le roi du tiramisu, par exemple,
et que c'est quelqu'un d'aussi organisé pour ses courses de biathlon que dans sa vie de couple, et que ses absences sont donc très très organisées. Enfin, on voit une petite interview sympa. Bon, c'est vrai que c'est un athlète sympathique, en plus il mène le combat contre le dopage, donc voilà, ça rajoute un petit peu.
Et puis c'est vrai que les sportifs sont souvent très lisses. Et lui, au moins, il dit ce qu'il pense. Donc, il a ce franc-parler qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que même pendant les, enfin, même quand il y a des épreuves, juste avant les épreuves, il dit ce qu'il pense et il n'hésite pas à dire tout ça, alors que tous les autres sont très dans le.
Je trouve qu'il a un peu une gueule d'ange, quoi. Enfin, moi, chaque fois qu'il quitte ses lunettes de ski et son bonnet, on a l'impression d'avoir un gamin, quoi. Et là, il va être papa pour la deuxième fois. Enfin, voilà, c'est. Et je trouve cette interview plutôt sympa, donc à retrouver dans Le Parisien.
Ouais, Caroline a craqué, vous l'avez compris.
C'est sportif de l'année en Occitanie, et je trouve que c'est un titre très, très mérité.
Bien, mais voilà, on a fait le tour de cette actu de la quinzaine. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour une nouvelle émission. On vous rappelle que cette émission est rediffusée le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Vous pouvez évidemment suivre nos comptes Twitter, Facebook, suivre le hashtag LosActuali.
Le compte Zéro Rencontre se poursuit jusqu'au 4 mars et qu'il y a des spectacles quasiment tous les soirs.
Voilà, et nos invités dès ce soir à Bagnoles-les-Bains, dès jeudi pour
Non, c'est demain, je crois.
Demain
au Bruel.
Voilà. Enfin bon, vous retrouvez tout le programme sur le site évidemment des foyers ruraux. Voilà, et avec la brochure que vous trouvez dans tous les un petit peu de partout en ville. On vous souhaite à tous une très très bonne quinzaine. À bientôt.
À bientôt.
Bonne journée. Au revoir.
Lose Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
Lose Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
Lose Actuali, le nouveau magazine de 48FM.